Nous sommes actuellement engagés dans une série consacrée aux citernes crevassées de notre temps. Pour rappel, cette expression vient du livre de Jérémie, d'un verset que nous avons lu à plusieurs reprises, dans lequel Dieu appelle le ciel et la terre à témoin, et Dieu constate un drame extraordinaire qu'il y a sur la terre. Et ce drame, c'est que les hommes l'ont abandonné, lui, la source d'eau vive, pour choisir des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Dieu s'étonne, Dieu s'exclame, Dieu est attristé de voir que les hommes le remplacent par autre chose, qu'il appelle des citernes crevassées, alors que lui, il est la source d'eau vive. Lui, il est la source de toute paix, de toute joie, de toute vie. Et les hommes remplacent Dieu par des choses qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune importance. Et rappelez-vous, nous avions dit que la première chose dans notre époque, dans notre temps, qui remplace Dieu, c'est l'homme lui-même. L'homme a remplacé Dieu. L'homme s'est mis sur le trône. L'homme a enlevé Dieu de son trône et s'est mis à sa place. C'est l'humanisme athée, c'est un humanisme qui met l'homme au centre, les besoins de l'homme, la volonté de l'homme, et qui met Dieu de côté. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur une autre citerne crevassée, une autre chose qui prend la place de Dieu, c'est le divertissement. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le temps de nous arrêter encore un peu sur le divertissement avant de passer à une autre citerne crevassée. Et nous allons en particulier nous arrêter sur un effet du divertissement que nous avons vu la dernière fois et sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui. Un effet néfaste du divertissement chez les hommes et aussi chez les enfants de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 5, deux versets seulement. Ésaïe 5, versets 11 et 12. Et c'est là qu'il est écrit « Malheur à celui qui de bon matin court, à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. » Amen. Nous avons vu donc la dernière fois l'effet qui nous est présenté dans ce texte précisément. Ce texte nous montre que le divertissement, c'est de ça dont il est question dans le verset 11, ceux qui s'amusent, ceux qui s'éclatent, ceux qui profitent. Le divertissement a le pouvoir, la capacité de nous rendre inattentifs à Dieu et à son œuvre. Le divertissement a la capacité de nous faire perdre la conscience de Dieu. Lorsque l'on est immergé dans une atmosphère de divertissement, lorsqu'on est immergé dans une atmosphère d'amusement, lorsqu'on est immergé dans une atmosphère dans laquelle on s'amuse, on s'éclate, on perd la conscience de Dieu. On perd la vision de Dieu. Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient point le travail de ses mains. Le divertissement nous fait perdre le contact avec Dieu. Le divertissement nous fait perdre l'attention à Dieu. Et ce divertissement aujourd'hui est tellement présent. On avait donné des dizaines d'exemples. Le divertissement remplit nos vies. Que chaque divertissement est une occasion en plus de détourner notre attention de Dieu. Qu'il s'agisse des divertissements concrets, matériels, tels que des événements festifs, des concerts, des rassemblements d'auteurs, des fêtes de quartier, des pièces de théâtre, des fêtes de karaoké, des cinémas, des bars, des cafés, des clubs de jeux, des clubs de cartes, des folklores. Qu'il s'agisse des divertissements immatériels, tels que les réseaux sociaux, que la télévision, que les plateformes télévisuelles, que les jeux vidéo, toutes ces choses-là sont autant d'occasions qui détournent l'être humain de Dieu. Nous avions dit, ce ne sont pas des choses mauvaises. Ce sont des choses bonnes en soi, ce sont des choses qui peuvent nous apporter du bien. Mais lorsque le divertissement prend toute la place, lorsque le divertissement devient notre obsession, lorsque le divertissement remplit nos cœurs, eh bien, il nous fait perdre la vision de Dieu, il fait perdre notre attention de Dieu. Et le divertissement, savez-vous, a un effet sur l'humanité tout entière. Vous savez, vous connaissez le chapitre de Romains 1er, dans lequel il nous est dit que les perfections de Dieu sont manifestes à l'œil nu. La gloire de Dieu, elle est manifeste à l'œil nu, dit la Bible. On l'oublie, ça, très souvent. Dieu est visible dans le monde. Il y a un grand penseur qui s'appelle Teilhard de Chardin, il disait « Le monde est transparent de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que le monde transpire de la gloire de Dieu. Et pourtant, les humains ne la voient pas. C'est comme si ce monde, en fait, était une grande toile signée en dessous Dieu. Mais tout le monde voit la toile, mais personne ne se rend compte de qui l'a fait. Il ne voit point l'œuvre de ses mains. Il ne voit point Dieu. Nous voyons la perfection, mais nous ne voyons pas Dieu. Nous perdons la vision de Dieu. Les humains sont détournés de la merveille de Dieu. Ils sont tellement occupés, vous autres aussi, tellement occupés par notre vie, par nos projets, tellement occupés par les plaisirs, par les divertissements qui remplissent nos vies, qui remplissent notre agenda, tellement occupés à être ébahis devant les nouvelles prouesses technologiques, à découvrir l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire, ça fait ça, c'est tellement merveilleux, tellement omnibulés à voir les nouvelles technologies, techniques qui existent, tellement en train d'écouter les idées fascinantes qu'il y a autour de nous, qu'on trouve en abondance. Il y a tellement, sur les réseaux sociaux, il y a des choses intelligentes, intéressantes qui sont dites. Tellement intéressés également à voir les événements autour de nous qui aussi prennent notre attention. Nous sommes tellement intéressés par tout ça que nous ne voyons même plus l'essentiel, l'auteur de toutes choses, le Créateur, dont la création nous parle en permanence, nous ne le voyons plus. Nous sommes tellement détournés du Créateur lui-même que même nous perdons de vue certaines choses qui semblent évidentes, certaines choses qui également transpirent dans notre monde, nous ne les voyons plus. C'est-à-dire que le divertissement a la capacité, premièrement, de nous faire perdre l'attention sur Dieu, mais le divertissement peut même aller plus loin, il peut nous rendre aveugles. C'est-à-dire que tu ne vois plus rien. Et par exemple, le divertissement fait perdre aux gens, on l'a rappelé, mais on le redira tant qu'il faudra, fait perdre aux gens la vision de choses essentielles, la perte des repères moraux. Ne se voit même plus. On ne s'en rend même plus compte. On ne se rend même plus compte que notre monde part à volo, que les repères sont perdus. Anthony en donnait des exemples tout à l'heure dans son introduction. Tellement en train de nous éclater que nous ne nous rendons pas compte que nous allons dans le mur avec des repères comme ceux que nous avons. Le divertissement et les choses du monde nous font perdre la question du sens profond de l'existence. Ça ne nous intéresse plus parce qu'on a tellement mieux à faire. Tellement de films encore à regarder, tellement de petits romans à écouter, à lire, que nous perdons la vue de toutes ces choses. Nous perdons la vision du plus essentiel. Et nous perdons la vision de tout ce qui sort des sens humains. Ce qui rentre dans nos sens, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qui peut nous amuser, nous le voyons. Mais ce qui est de plus essentiel, nous le perdons de vue. Peut-être que certains ont déjà vu ici, je pense que certains ont déjà dû voir, la peinture du chemin large et du chemin étroit. Dans la tradition protestante, vous connaissez cette belle peinture dans laquelle on a représenté le chemin large et le chemin étroit. Bon, évidemment, c'est un peu plus vieux, hein, donc tout le monde n'a peut-être pas vu. Mais peut-être que certains, vous avez un peu l'intuition d'à quoi ça ressemble. Alors, c'est une peinture dans laquelle on a peint un chemin qui est étroit et un chemin qui est large. Donc, le chemin étroit qui représente la marche du chrétien, la marche de l'enfant de Dieu, et le chemin large qui représente la vie du monde, la vie sans Dieu. Et si vous avez regardé correctement cette peinture, vous allez voir que sur le chemin large, autour du chemin large, on a dessiné plein d'occasions de divertissement. C'est-à-dire que à côté du chemin large, il y a un bal masqué. Bon, évidemment, ici, ça ne veut plus rien dire, mais une discothèque, le théâtre, la maison de jeu. Le long du chemin large, il y a tout ce qui amuse. Et puis, autour du chemin étroit, il y a l'église, il y a la croix, il y a la prière, il y a le service des autres. Et c'est en fait une image qui montre que ce qui caractérise justement le monde sans Dieu, c'est le fait d'être centré sur le divertissement. C'est le fait d'y donner tant d'importance. Alors que pour les chrétiens, le divertissement n'est pas négatif et il n'est pas mauvais, mais il ne prend pas la première place. Pour les chrétiens, ce qui prend la première place, c'est Dieu, c'est sa gloire, c'est sa parole, c'est sa volonté, et le divertissement n'est qu'un truc en plus. C'est un petit à côté pour le chrétien. Alors que pour le non-chrétien, très souvent, ça prend toute la place. Dans le texte que nous avons lu pourtant, il est bien question des croyants, des enfants de Dieu. Et il nous est dit qu'ils vivent dans le divertissement, ce qui a pour conséquence qu'ils ne prennent pas garde, ils ne sont pas attentifs aux œuvres de Dieu. Ils ne sont pas attentifs. Ah, ils ne sont pas attentifs. Ils connaissent Dieu, mais ils ne sont pas attentifs. Ils ne sont pas attentifs à la parole de Dieu. Ils ne sont pas attentifs, comme dit le texte, à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu est en train de faire, à ce que Dieu fait. Ils ne sont pas attentifs à ce que Dieu révèle, ce que Dieu montre. Ils ne sont pas attentifs aux bénédictions que Dieu veut leur donner. Ils ne sont pas attentifs aux promesses de Dieu. Ils ne sont pas attentifs aux exigences de Dieu. Ils ne sont pas attentifs aux instructions de Dieu. Ils ne sont pas attentifs. Ils sont dans l'inattention. Et frères et sœurs, cela peut être aussi notre réalité. C'est dur à croire parce que comme ça, vous avez l'air bien réveillé. Pour la plupart. Vous avez l'air en forme. Certains sont un peu fripés, mais en gros, ça va. Mais on peut être bien en forme, on peut être bien debout comme chrétien, on peut même parfois être surexcité et ne pas être attentif. Nous pouvons ne pas être attentifs. Et d'un point de vue concret, il y a différents axes dans lesquels nous pouvons ne pas être attentifs. Nous pouvons ne pas être attentifs au danger qui nous entoure. C'était aussi le cas de ces gens dont parle le texte. Nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas conscients des dangers qui nous entourent ou des dangers qui entourent notre vie. Par exemple, nous sommes en train de nous refroidir spirituellement. Nous sommes en train tout doucement de perdre notre chaleur pour Dieu. Et tout doucement, un péché rentre dans nos vies. Pour s'installer, pour prendre le dessus. Et tout doucement, ce péché rentre dans nos vies, il s'installe sans que nous ne le voyons, parce que nous ne sommes pas attentifs, parce que nous ne veillons pas. Autre exemple, ça peut être pour une personne, mais ça peut être aussi pour un groupe. Une église qui commence à se refermer sur elle-même, qui commence à être beaucoup plus intéressée par ses projets, que par les perdus, qui commence à s'amuser et à prendre de l'énergie pour ces histoires de bac à sable plutôt que pour le royaume de Dieu. On ne s'en rend pas compte, on est inattentif, on ne voit pas, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Dans la Bible, Dieu nous invite à veiller, c'est-à-dire à rester constamment conscient des dangers qui sont autour de nous, des dangers pour nos âmes, des dangers pour les groupes dans lesquels nous sommes, des dangers pour les familles que nous avons. Nous sommes appelés à rester vigilants, attentifs. Vous connaissez le texte de Balaam quand il est allé pour maudire le peuple d'Israël. Vous connaissez ce texte où Balaam s'en va et il y a un ange qui est là, sur son chemin, un ange qui a une épée dégainée. Ce qui fait qu'effectivement, Balaam ne peut pas avancer et que l'âne se déplace à chaque fois et que Balaam ne comprend pas ce qu'il se passe. Et il y a un moment donné où Dieu ouvre ses yeux et où il voit qu'il y a un ange devant lui qui est en train de lui barrer le chemin. Et il comprend enfin pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation. Parfois, nous sommes dans ce manque de vision spirituelle. Nous ne voyons pas les dangers autour de nous. Nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous. Et Dieu nous appelle au contraire à être attentifs, à avoir les yeux ouverts, à ne pas être suspicieux de tout, mais à être spirituellement éveillés. Nous l'avons rappelé la dernière fois, la Bible nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ne l'oublions pas, celui-là. Ne pensons pas qu'il est au chômage. Ne pensons pas qu'il prend des pauses carrière. Il n'y a pas chez lui. Il n'y a pas de retraite non plus. Il est licencié depuis longtemps, mais il n'a pas pris sa retraite. Et il cherche qui dévorer. Parmi nous, il cherche qui dévorer. Et il dévorera celui, justement, comme le début du texte le dit, qui ne veille pas. Un autre texte dans la Bible nous dit, c'est le contexte du pardon notamment, vous connaissez certainement ce texte de 2 Corinthiens 2, 11, qui dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. En d'autres termes, Satan a des desseins. Là, c'est dans le cadre de l'Assemblée. Il a des desseins, des envies, des choses qu'il veut faire. Diviser, attaquer, éloigner de Dieu. Et le texte nous invite à ne pas lui laisser l'avantage. Quand est-ce que je lui laisse l'avantage? Quand je dors. Quand je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Quand je ne veille pas à moi. Quand je ne veille pas aux autres. Quand je dors, je lui laisse l'avantage. Et dans la Bible, Éphésiens 4, 27 nous dit « Ne donnez pas d'accès au diable ». C'est votre responsabilité. Ne lui donnez pas accès. Pour vous, personnellement, dans votre vie à vous, pour les gens autour de vous, pour votre communauté, ne lui donnez pas accès. Ne le laissez pas rentrer. Parce que c'est ce qu'il cherche, en fait. Il cherche juste la fissure de mur par laquelle il va pouvoir rentrer. Vous avez déjà vu une souris qui passe par une fissure d'un mur? C'est dur à croire, hein? Il paraît que c'est vrai, moi j'ai jamais vu. Mais il paraît qu'une souris, ça peut vraiment passer dans un tout petit trou. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les rats, Jean-Pierre peut vous en parler. Il y a quelques mois, Jean-Pierre ne parlait que de ça. Les rats. Donc à la fin du culte, n'hésitez pas, il a plein de choses à vous dire. Et il peut même vous faire une visite guidée aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est dur à croire qu'une souris peut passer par un tout petit trou. Mais pourtant, elle le fait. Et c'est la même chose pour le diable. On ne croirait pas qu'il va rentrer par un tout petit conflit dans une église. Bah, c'est juste une brède, comme on dit. Oh, un petit péché, oui, c'est ça, ouais, ça va aller. Eh bien, il ne lui faut que ça pour nous faire du mal et pour nous atteindre. Nous ne sommes pas conscients des dangers autour de nous. Mais aussi, nous ne sommes pas conscients des besoins autour de nous. Nous sommes appelés à être attentifs aux dangers, mais aussi à être attentifs aux besoins qui nous entourent. Tant de situations qui peuvent nous demander d'être attentifs aux besoins qui sont autour de nous. Vous connaissez ce texte qui reste quand même incroyable quand on y pense. Enfin, j'aimerais bien que vous soyez un peu choqués, parce que c'est choquant. Faites des têtes de choqués. Pas maintenant, quand j'aurai expliqué, sinon ça va. Il y a un type, un gars qui fait sa vie, et il se fait agresser par des brigands. Les brigands le dépouillent. Les brigands le mettent par terre. Le brigand le laisse à demi-mort. Et il y a un sacrificateur et ensuite un lévite qui passe, qui le voit et qui ne font rien. Voilà, maintenant, faites des têtes de choqués. Ils ne font rien. Ils ne sont pas attentifs ou ils sont désintéressés. Donc, être attentif, c'est être attentif au danger qu'il peut y avoir autour de ma vie, mais être attentif, c'est aussi être attentif aux besoins qu'il y a autour de moi. Parce qu'il y a peut-être un homme comme ça, abandonné le long de la rue, que je suis appelé à secourir et je ne le vois pas, parce que je suis inattentif. Peut-être que je peux vivre avec une personne, un conjoint, qui passe par des moments de grands troubles spirituels, de grands troubles émotionnels, et je ne le vois pas. Ça arrive, hein, parfois, même avec la personne avec qui on dort. Ah bon, je ne me rendais pas compte qu'elle était comme ça, je ne me rendais pas compte qu'il vivait ça. Parfois, je ne le vois pas. Peut-être que j'ai un voisin à côté de chez moi qui a son cœur tout prêt à l'évangile. Son cœur n'attend qu'une semence pour se donner à Christ. Mais si je suis inattentif, je ne le vois pas. Je ne m'en rends pas compte. Il y a peut-être des personnes autour de moi qui s'éloignent de Dieu et qui ont besoin juste de ma prière, de ma supplication. Ainsi que la Bible dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Dieu peut aussi sauver des gens autour de nous par nos prières. Juste parce que nous avons vu et que nous avons pris à cœur, eh bien Dieu peut sauver quelqu'un. Peut-être que nos enfants sont troublés parce qu'ils entendent à l'école, parce qu'ils vivent à l'école. Et ils ont besoin de recevoir notre éclaircissement, notre encouragement. Mais parfois, nous ne le voyons pas. Quels sont les besoins auxquels je dois répondre? Quels sont les gens vers qui je dois me tourner? Pour le savoir, j'ai besoin d'être attentif, d'être réveillé spirituellement. Si je suis endormi dans les divertissements, si je suis endormi dans les amusements, je vais perdre de vue toutes ces choses-là. Mais aussi, nous sommes appelés à être attentifs aux impératifs qui sont les nôtres. Il y a des choses qui sont impératives autour de nous. Il y a des impératifs. Un impératif, c'est quelque chose d'urgent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas repousser. C'est quelque chose d'absolument nécessaire. Un impératif, d'ailleurs, ça appelle à un ordre. C'est tellement important qu'on nous donne des ordres, tellement c'est important. Il y a des impératifs pour notre vie chrétienne, pour notre marche avec Dieu. Il y a des impératifs desquels nous pouvons être complètement déconnectés si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas réveillés. Des impératifs. Aimez-vous les uns les autres. C'est un impératif. Priez pour votre ville. C'est un impératif. Beaucoup de chrétiens ne prient pas pour leur ville, pour là où ils sont. Alors que c'est notre responsabilité de couvrir l'espace dans lequel nous vivons de nos prières. De couvrir notre ville, notre pays, de nos prières. C'est un impératif. Mais quand je ne suis pas attentif, j'oublie, j'y pense pas. Utilisez vos dons. Pardonnez-vous. Haïssez le mal. Prenez soin du plus faible. Ce sont autant d'impératifs qu'il y a devant nous. Et nous avons besoin d'être attentifs pour les entendre. Nous avons besoin d'être debout, réveillés pour en prendre conscience. Il y a des choses qui sont des impératifs. C'est important, c'est absolu, c'est prioritaire, ça doit se faire. Et on ne cessera pas de rappeler l'exemple de Marthe qui n'avait pas justement compris son impératif. Elle n'était pas dans le divertissement, Marthe. On ne peut pas lui reprocher. Mais elle était occupée. Mais c'est toujours le même effet, voyez-vous. Le divertissement nous rend occupés, il occupe nos pensées. Mais Marthe, elle était occupée à travailler, à faire. Mais ça occupe toujours notre pensée. Et Jésus vient rappeler à Marthe quel est l'impératif là, maintenant. C'est bien ce que tu fais, Marthe. tu as des bonnes idées et je suis bien content que tu me fasses cette nourriture, je sais très bien. Mais là, maintenant, l'impératif, c'est d'être à mes pieds en train de m'écouter. C'est la priorité, là, maintenant. C'est ce qu'il y a de plus urgent, c'est que tu m'écoutes, c'est que tu sois près de moi. Voyez-vous que c'est ça l'attention spirituelle. Quand un chrétien est attentif spirituellement, il sait ce que Dieu l'appelle à faire là, maintenant. Puisqu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour agir, il y a un temps... Quand on est attentif à ce que Dieu attend de nous, on découvre ce qu'il attend de nous là, maintenant. C'est quoi le plus important? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi dans cette situation? Je suis ouvert à entendre et à savoir ce que tu veux. Nous devons prendre conscience d'une chose. Il y a une vraie bagarre pour notre attention. Il y a un combat autour de notre attention. En d'autres termes, il y a plein de choses autour de nous qui veulent notre attention. Il y a autour de nous toutes sortes de bruits, toutes sortes d'images, toutes sortes de gens, toutes sortes de circonstances qui veulent prendre notre attention pour que nous regardions à cela. Et la question, c'est qu'est-ce qui va gagner? Qu'est-ce qui va gagner dans toutes ces choses qui m'appellent? On pourrait même le faire en termes de pourcentage. Alors vous, ça va. On ne va pas faire le test parce que vous, tout va bien. Mais on ira faire le test ailleurs. En termes de pourcentage de votre attention, l'attention complète, c'est 100%. Quel pourcentage de mon attention va vers Dieu et vers les choses de Dieu? On va faire large. Vers Dieu et tout ce qui concerne Dieu. Quel pourcentage de mon attention, de mon espace mental, va vers Dieu et les choses de Dieu? Alors vous, c'est 100%, c'est très bien. Mais en réalité, pour les autres, parfois on peut se dire, en fait, oui, en gros, ça fait 10%. C'est-à-dire, en pourcentage, oui, il y a 10% de mon attention, des ressources mentales et de cœur que j'ai qui sont tournées vers Dieu. Peut-être qu'on peut même en arriver à dire, il y a 1%. Ça veut dire que Dieu n'occupe que 1% de mon espace mental, de mon cœur, de mes ressources. Il n'y a qu'un pour cent de tout ce que j'ai dans ma tête qui lui sont alloués. Et en fonction de ce pourcentage, eh bien, nous pouvons savoir si nous sommes attentifs spirituellement ou si nous dormons spirituellement. Celui qui n'a que 1% d'attention tournée vers Dieu, il dort. Puisque 1%, ça veut dire que tout le reste va avoir plus de force. Celui qui a 50%, il se maintient. Mais il y a une bagarre pour notre attention. Nous ne nous en rendons pas compte parce que nous vivons dans le monde aujourd'hui. C'est bien normal, on est pris dedans. Mais on ne nous rend pas compte. Vous savez qu'on appelle notre culture la culture du zapping. Vous savez ce que c'est, zapper? Zapper, c'est quand on a une télécommande et qu'on change de chaîne. Eh bien, ça, c'est ce qu'on fait avec la télévision. Mais en fait, les sociologues disent que notre culture est une culture du zapping, c'est-à-dire une culture dans laquelle on peut constamment passer d'une chose à une autre. On peut constamment avoir une attention donnée à une chose puis à une autre. Donc, on peut en permanence être pris dans quelque chose puis passer à autre chose. Notre attention, elle est sollicitée partout et tout le temps. On peut avoir une personne qui est occupée chez elle à avoir sa télévision qui fonctionne, en train d'être au téléphone, en haut-parleur, en regardant une vidéo, en lisant un truc sur Twitter et en recevant des notifications. On est sollicité partout. On a constamment quelque chose qui nous appelle, un bruit, une personne, une situation. Et donc, il y a une bagarre pour notre attention. Il y a une bagarre pour notre cerveau. Et justement, il parle d'un zapping attentionnel. Donc zapping attentionnel, ça veut dire que notre attention est constamment prise par une chose et par une autre. Et donc pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, le défi, c'est évidemment d'être attentif à ce qui se passe sur terre, évidemment. Mais de ne pas tout donner au monde, de ne pas tout donner à la terre, de ne pas tout donner aux applications, aux réseaux, aux amusements, mais de garder à Dieu une part de notre attention, quand même. Comme disait le texte la dernière fois, ne dormons pas comme dorment les autres. Ah oui, quand je suis pris dans le divertissement, je dors. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas appelé à dormir. Je suis appelé à être réveillé, conscient de ce que Dieu veut, conscient. Je suis appelé à être réveillé, conscient de ce que Dieu veut me montrer, conscient de ce que Dieu veut me dire, conscient de ce que Dieu est en train de faire, conscient de la volonté de Dieu. Je suis appelé à être réveillé. Savez-vous que la Bible dit encore une chose qui doit vous rendre, encore une fois, stupéfait? La Bible dit, et ça nous parle de notre attention, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible ajoute, mais on n'y prend pas garde. Donc ça veut dire que, au quotidien, Dieu parle. Mais quoi? On n'y prend pas garde. On ne le voit pas. Notre attention ne le voit pas. Comme nous ne sommes pas attentifs, nous ne le voyons pas. Nous ne l'entendons pas. Dieu nous appelle à être attentifs. Et dans la Bible, c'est vrai que quand on s'y arrête, il y a tellement d'exhortations à l'attention. Dieu dit à son peuple, Israël, sois attentif et écoute. Dans Néhémie, il nous est dit, tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi. Attentif. Dans le psaume 107, verset 43, on l'avait évoqué un jour dans une présidence, il est dit dans ce verset que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Je suis appelé à être attentif aux dangers autour de moi, aux besoins autour de moi, mais je suis aussi appelé à être attentif aux bontés de l'Éternel. Que celui qui est sage soit attentif à tout ce que Dieu fait de bon. Vous voyez que c'est le contre-pied du verset qu'on a lu au début. Le verset au début nous dit « Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel ». Eh bien, nous sommes appelés au contraire à prendre garde à l'œuvre de Dieu, et en particulier à prendre garde aux bontés de Dieu. Qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Dans les proverbes, on ne va pas tous les citer, mais vous savez le nombre de fois où il y a l'appel à la sagesse. Et là, la sagesse s'adresse aux hommes, et Dieu s'adresse aux hommes en disant « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, sois attentif à l'instruction de ton père, prête l'oreille. » C'est toutes des expressions qu'on trouve dans les proverbes. « Prête l'oreille, écoute, sois attentif. » Et vous connaissez aussi ce verset, un beau verset, que vous pourrez peut-être mettre dans votre maison, quelque part, là où vous avez un peu de place. C'est un très beau verset que vous connaissez. Mais c'est un verset à prendre à cœur. Dans Ésaïe 48, 18, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et il dit, « Ô mon peuple, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. » Nous sommes appelés à être attentifs dans plein de versets. Si tu écoutes attentivement, nous sommes appelés à être attentifs. Attentifs à ce que Dieu dit au fond de nos cœurs. Attentifs à ce que Dieu veut nous montrer autour de nous. Attentifs à nos lectures bibliques pendant que nous lisons. Attentifs aux prières des autres. Attentifs à la prédication. Attentifs à ce que les autres nous disent, à la sagesse qu'il y a dans le cœur des autres. Attentif. Il y a un serviteur de Dieu du temps passé qui a écrit un livre très connu, Watchman Nee. Il a écrit ceci. Le secret du progrès spirituel, c'est la réceptivité à l'égard de Dieu. le secret du progrès spirituel, c'est la réceptivité à l'égard de Dieu. En d'autres termes, le secret pour grandir spirituellement, c'est de rester en tout temps à l'écoute de Dieu, rester constamment attentif à Dieu. Le chrétien est donc appelé d'une part à avoir une attitude d'écoute en tout temps, de toute manière, à être à l'écoute de Dieu, mais aussi à être attentif. Dans la Bible, dans le psaume 123, verset 2, il y a ce passage qui nous donne une belle image d'à quoi ressemble le chrétien attentif. C'est dans un contexte de prière, de demande du secours de Dieu. Et il est dit, c'est le peuple qui parle, « Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. » En d'autres termes, c'est l'image des serviteurs à l'époque qui attendaient un ordre de leur maître, puisqu'ils étaient dirigés par un simple ordre, un simple geste de leur maître. Et le texte dit, en fait, notre position à nous, nous sommes comme des serviteurs qui ont la main tournée vers Dieu, les yeux tournés vers Dieu, en permanence, notre regard vers la main de Dieu, attendant un signe de sa part. Donc c'est cette position d'attention, je suis attentif à la main de mon maître, je suis attentif à Dieu, je suis attentif, je suis réveillé, et j'attends qu'il me dise ce que je dois faire. Je ne suis pas distrait en train de regarder à gauche, à droite. Je regarde à ses mains, je regarde à lui. Et toujours dans cette même idée, Habacuc 2, verset 1, il est dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Je veillais, j'étais réveillé pour voir ce que Dieu me dirait. J'étais debout en train d'attendre d'avoir une instruction de Dieu. Et David disait, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment, mon regard tourné vers Dieu. Alors frères et sœurs, le peuple de Dieu est appelé à être réveillé. Nous sommes appelés à être réveillés. Si nous avons reçu la lumière du salut, ce n'est pas pour dormir comme les autres. Ce n'est pas pour dormir, pour être pris dans cette société. Et encore une fois, ce soir, divertissez-vous, allez-y. Amusez-vous d'ailleurs, parce que vous ne faites que ça. C'est bien, continuez. C'est bon le divertissement, mais ça ne doit pas nous endormir. Et rien dans ce monde ne doit nous endormir. Ni les événements, ni les divertissements, ni les bruits, ni les spectacles, ni les émissions. Rien ne doit nous endormir et rien ne doit nous faire perdre notre regard tourné vers le Seigneur. En tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances, nous devons veiller à regarder à lui, à rester attentifs. Et même si parfois nous avons des moments où nous trébuchons parce que nous nous rendons compte « Oh, j'ai été tellement pris cette semaine que j'ai pensé à 100 000 choses, j'ai fait… » Voilà, c'est pas grave, je me reprends, c'est tout. Mais il y a un combat quand même. Pour choisir qu'est-ce qui va avoir mon attention. Et le divertissement est tout premier dans le combat. Il se présente en premier. Et c'est là que nous devons prendre le divertissement et le mettre à sa bonne place. Pour dire, voilà à quoi je veux donner la majorité de mon attention. Et puis oui, un peu à ça. Un petit film, c'est bien. Oh oui, une petite balade, c'est bien. C'est à moi de choisir à quoi je donne mon attention. Et au plus, je suis en croissance dans le fait de donner une attention à Dieu, au plus aussi, Dieu me permet de le connaître. Et, au plus je connais Dieu, au plus le reste perd de son goût. Au plus je goûte à Dieu, au plus le reste perd du goût. Et au plus je me dis, c'est vrai que c'est bien, mais quand même, la présence de Dieu, c'est autre chose. Que Dieu nous aide justement à rester réveillés et debout. Amen.